Alors, c'est à propos, vous savez, de la communion. Le Seigneur dit, enfin, c'est plutôt saint Paul, quand il écrit aux Corinthiens. Les Corinthiens, vous savez, je ne sais pas si vous connaissez Corinthe, si vous savez où c'est en Grèce. Cette ville-là, c'était un peu bizarre à l'époque de Paul. Les gens avaient des mœurs un peu légères. C'était un peu, comme on dit, qu'est-ce que je pourrais comparer à Amsterdam, vous savez, un peu comme ça. Alors évidemment, il avait beaucoup de mal, le pauvre saint Paul, à prêcher aux Corinthiens. Et à ces Corinthiens, il va leur raconter l'Eucharistie, c'est-à-dire la manière dont le Christ a institué l'Eucharistie. Et c'est aussi, et pas seulement avec l'Évangile, mais aussi grâce à saint Paul que nous avons la description de l'Eucharistie. Le Seigneur, quand il a pris le pain, quand il a pris le vin, vous savez, il prend le pain, il le rompt. Et ça, c'était le geste normalement du père de famille qui le faisait, ou alors du chef de l'assemblée qui devait rompre le pain pour signifier que le repas commençait. Mais évidemment, Jésus a rajouté quelque chose d'extraordinaire. Il a dit « Ceci est mon corps » et cela, ce n'était pas dans la tradition juive. Ensuite, il y a plusieurs coupes qui passent. Il y a une dernière coupe qui doit passer, c'est la coupe de la dernière coupe. Eh bien, cette coupe-là, normalement, également, c'est le signe, c'est un signe très très important. Et avant cette coupe-là, vous savez, il y avait un geste qui était fait par le plus jeune, qui devait se lever et puis apporter les ablutions, c'est-à-dire permettre, faire le tour de ceux qui sont présents pour leur laver les mains. Et voilà que Jésus va mettre cela par terre, parce que ce n'est pas saint Jean qui s'est levé, comme ça aurait dû être, puisque c'était lui le plus jeune, c'est Jésus qui se lève. Il passe un tablier, vous savez ce qu'il fait, il va laver les pieds au lieu de laver les mains. Alors ils sont un peu choqués, vous savez, Pierre il dit « Ah ben non, tu vas pas me laver les pieds, pourquoi ?» Parce que le travail du lavement des pieds, c'est un travail d'esclave, c'est un travail du dernier des serviteurs. Et voilà ce que dit Jésus, « Vous m'appelez maître et seigneur, et en vérité je le suis. Eh bien si moi, maître et seigneur, je vous lave les pieds, combien plus vous devez vous laver les pieds les uns des autres ?» Ce n'est pas parce que nous sommes purs que nous avançons vers l'Eucharistie, c'est parce que le Christ nous a rendus purs. Et quand saint Paul dit aux Corinthiens effectivement qu'il faut vérifier, qu'il faut regarder un peu ce que l'on a dans le cœur, ne pas s'avancer vers le corps et le sang du Seigneur sans avoir vérifié que nous étions ajustés, eh bien c'est cela dont il veut parler. Il dit aux Corinthiens, regardez, regardez-vous. Laissez-vous regarder par Dieu plus exactement. Êtes-vous en conformité avec Dieu? Tout simplement parce que quand nous venons jusque-là, voilà, c'est la phrase exacte a été retrouvée grâce à notre berger. C'est pour ça qu'il est berger d'ailleurs. C'est qu'il sait retrouver la parole de Dieu là où il faut. Et comme ça, il aide une brebis égarée, même quand cette brebis égarée, c'est un évêque. Merci donc. Que chacun donc s'éprouve soi-même, et qu'ainsi il mange du pain et boive à la coupe, car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. Vous savez, quelquefois, on a l'habitude de venir prendre l'Eucharistie, et puis on est un peu distrait, c'est-à-dire on vient comme on va chercher une botte de radis chez l'épicier. Évidemment, si on est dans ces conditions-là, ça ne va pas du tout. Quand j'étais petit, on allait à la messe avec mes parents, enfin quoique mon père n'allait jamais à la messe et mes frères non plus, donc plutôt avec ma maman. Et personne ne communiait. On communiait qu'à Pâques et encore après, juste après s'être confessé, parce qu'on se disait tu ne peux pas t'avancer indignement devant le Seigneur. Et c'est à cause de cette parole de saint Paul. Juge-toi quand tu vas recevoir le corps et le sang de Jésus. Eh oui, alors là, évidemment, si on commence à se juger, on se dit, ben non, je peux pas m'avancer. Je vais vous faire une confession. Ben oui, c'est un peu dans l'autre sens pour une fois. D'habitude, c'est vous qui vous confessez, moi je vous confesse. Il m'arrive quelquefois, bien souvent d'ailleurs, d'être à l'autel. Et vous savez qu'à l'autel, le prêtre est obligé de communier au corps et au sang du Christ. Il est obligé. Pourquoi? Parce que s'il ne communie pas, la messe n'est pas valide. Tout simplement. Pourquoi? Eh bien, parce que vous êtes prêtre. Vous êtes prêtre, vous avez été baptisé, vous êtes prêtre, prophète et roi, vous le savez. C'est pour cela que vous venez à la messe et que vous offrez l'unique sacrifice d'amour pour le monde, pour le salut du monde. Mais le prêtre, lui, il a donné sa vie à Jésus et il a été ordonné, comme les apôtres ont été ordonnés, pour que lorsqu'il est à l'autel, Lui, il n'est pas prêtre comme vous, comme les baptisés. Bien sûr, il est comme vous baptisé. Mais il a été ordonné pour que, au moment de la messe, Jésus s'empare de sa personne. Et si vous relisez les encycliques de Jean-Paul II sur l'Eucharistie, c'est exactement ce qu'il dit. Au moment de la consécration, Jésus vient en lui, s'empare de sa personne et de sa voix, et par sa voix dit les paroles « Ceci est mon corps, ceci est mon sang ». Normalement, le prêtre devrait dire « Ceci est le corps de Jésus », ce n'est pas le sien. Il devrait dire « Ceci est le sang de Jésus », il ne dit pas ça. Il dit « Ceci est mon corps », ce sont les paroles de Jésus. Pourquoi ? Eh bien parce que c'est Jésus qui vient le dire en lui. À ce moment-là, c'est ce qu'on appelle « in persona Christi », le Christ s'empare de sa personne. Il n'est plus lui-même, il a donné sa vie pour cela. C'est pareil à la confession. La confession, le prêtre dit « je te pardonne », mais attends, t'es qui toi pour me pardonner ? Ça va pas, non ? Mais non, c'est Jésus qui pardonne. À ce moment-là, Jésus s'empare de la personne du prêtre, c'est à cela que sert le prêtre ministériel, c'est pour ça que nous avons donné notre vie, pour ce moment extraordinaire où Jésus vient en nous pour pardonner et dire « je te pardonne tes péchés ». Ceci est mon corps. Et voilà, à ce moment-là, effectivement, et pour ça, à la fin, au moment où on brise le corps de Jésus, c'est-à-dire qu'on signifie sa mort, et puis qu'on reprend un morceau du corps de Jésus pour le remettre dans le sang, qui signifie la résurrection, puisque le sang et le corps s'unissent, le prêtre va communier au corps et au sang du Christ pour réaliser ce que Jésus vient de faire en lui. Il va communier au corps et au sang pour que le corps et au sang, lui, accomplissent ce qui s'est passé à la confirmation. Et donc, le prêtre est obligé de communier. Et il y a bien souvent où je me dis, mais enfin, je ne suis pas vraiment digne. Là, aujourd'hui, j'ai une mauvaise pensée, j'ai des choses qui ne sont pas claires. Mais je n'ai pas le choix. Quand j'étais un fidèle comme vous, parce que j'ai été fidèle quand même pendant un moment, et des fois, je me disais, oh là là, je ne suis pas très très clair. Donc, je sentais que ce n'était pas bien, il ne fallait pas que je communie. Alors, ce qui est très difficile, c'est qu'est-ce qui va nous permettre de discerner si on peut s'avancer vers le Seigneur, ou si on s'avance simplement pour une bénédiction, ou si on reçoit le corps et le sang de Jésus. Il y a plusieurs choses. Il y a des signes objectifs, et après, c'est la manière, et des signes subjectifs. C'est-à-dire, les signes objectifs, c'est je suis dans une situation qui ne me permet pas de communier. Je viens de tuer mon grand-père et ma grand-mère. Je vais à la messe. Pourquoi vous riez? Ça vous ferait rire que je tue mon grand-père et ma grand-mère? Vous me faites peur. Non, c'est pas vrai, bien sûr. Bien, je viens de faire un acte très grave. Je m'avance. Évidemment, je ne vais pas m'avancer vers le Seigneur. Ce n'est pas possible. Ou si, évidemment, je commets un péché beaucoup moins grave. Ce que l'Église demande, c'est que vous soyez sûr de ne pas avoir commis un péché grave avant de vous avancer vers le Seigneur. Si vous avez commis un péché grave, eh bien, il faut aller se confesser. Donc, on va se confesser avant de recevoir la communion. Vous savez que en France, en Europe aussi, pendant un long moment, il y a eu une idée qu'on appelait le jansénisme. Le jansénisme a commencé à peu près fin du XVIIe, XVIIIe siècle. Et ça a duré jusque quand j'étais petit, justement. On disait qu'on ne pouvait pas s'avancer vers Dieu parce qu'on était indigne. Donc on ne s'avançait qu'à Noël, à Pâques, en se confessant juste avant pour être sûr de ne pas commettre des péchés. Ce qui fait qu'en fait, quand j'étais petit, personne n'allait communier. Aujourd'hui, tout le monde va communier. Alors vous voyez, on est passé un peu d'un extrême à l'autre. C'est-à-dire qu'autrefois, les gens étaient très très scrupuleux et se disaient « je ne suis pas digne ». Mais c'est vrai qu'on n'est pas digne. Et c'est vrai que moi, quand je communie au corps et au sang de Jésus, quand je dis la messe, je suis obligé de communier, je me dis, je ne suis pas digne. D'ailleurs, nous le disons ensemble, Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir. Et c'est vrai, nous ne sommes pas dignes. Mais la question, c'est que on sait très bien que l'on n'est pas digne, et on va s'avancer vers le Seigneur parce qu'on sait que c'est sa miséricorde qui nous a rendus dignes. Je ne m'avance pas vers lui parce que je suis saint, mais pour qu'il me sanctifie. Je vais vous raconter une histoire vraie. Contrairement à mon grand-père et ma grand-mère, cette fois c'est une histoire vraie. Je venais d'être ordonné prêtre, il n'y avait pas très très longtemps, et puis j'étais à l'église Saint-Louis-en-Lille, vous savez, sur l'île Saint-Louis. Et puis une dame qui travaillait avec moi à l'aumônerie pour s'occuper des jeunes, elle avait des problèmes de dépression, elle était très mal. Et juste avant que je célèbre la messe, c'était un midi, elle sortait du travail, elle vient voir, elle me dit « Je viens vous voir parce que je vais me jeter dans la Seine. » Ah bah d'accord, juste 5 minutes avant la messe, c'est facile. Hein. Et là, quelque chose m'est passé dans la tête, mais vraiment. Mais quelque chose qui venait de l'intérieur, qui venait pas de moi. Hein. Je lui ai dit « Je sais pas ce que vous voulez faire, mais moi ce que je vous dis, je vous donne l'ordre d'assister à la messe. » Elle me dit non. Je dis, je vous donne l'ordre. Je vous donne l'ordre d'assister à la messe et vous allez communier. Elle me dit non, je peux pas, je suis pas digne. Vous allez communier, c'est un ordre, je vous le demande. C'est la première fois que je parlais comme ça de ma vie, mais je sentais qu'il fallait absolument. Elle a assisté à la messe. Alors vous allez dire, c'est toujours ça de gagner. Non, c'est pas ça. Il s'est passé autre chose. Elle a assisté à la messe, elle a communié. Et après la messe, je suis venu la voir tout de suite, évidemment, parce que je me dis, elle va faire une bêtise. Et je lui dis alors, mais qu'est-ce qui se passe? Elle m'a dit, ah ben non, c'est fini. C'est fini. Ce que je veux vous dire, c'est que je la connaissais, hein, c'était pas du cinéma. Hein. Je sais qu'elle allait le faire. Je sais qu'elle allait le faire. Et j'ai senti que seul le Seigneur pouvait la guérir. L'Eucharistie, c'est aussi un remède. Eh oui, c'est un remède. Vous allez me dire, c'est parce qu'il est médecin qu'il nous raconte des histoires. Non, pas du tout. L'Eucharistie est un remède qui nous guérit. Nous sommes blessés, nous sommes abîmés, notre humanité est abîmée. Et si Jésus a pris notre humanité et nous donne sa chair en nourriture, c'est pour nous guérir. L'Eucharistie est vraiment une guérison. Je l'ai vu, je pourrais vous raconter d'autres histoires. Mais c'est vrai. Bien sûr, il y a le sacrement des malades. Alors là, j'ai encore plus d'histoires. Mais une autre fois. Mais pour vous dire, voilà... L'Eucharistie est un sacrement de guérison, mais encore, faut-il être dans de bonnes dispositions. Les dispositions objectives, si je sais que dans ma vie c'est pas clair, par exemple je suis dans une situation matrimoniale qui n'est pas claire, je sais que l'Église me demande voilà, de changer de vie, ou bien de recevoir peut-être des grâces, mais pas par le biais de l'Eucharistie, qu'est-ce que je fais? Il y a deux attitudes. Soit je dis, au fond, j'en ai rien à faire, moi, je viens quand même prendre le corps du Christ. Ça veut dire, bon, que je méprise l'enseignement de l'Église, peut-être c'est pas grave. Mais ça veut dire que je méprise l'Eucharistie. Ça, c'est beaucoup plus grave. Ça veut dire que quelque part, eh oui, je viens parce que je viens, parce que j'en ai envie, parce que c'est mon petit Jésus à moi et je veux le prendre. Jamais on ne prend Jésus. C'est pour ça qu'on met la main comme ça, vous avez remarqué? Certaines personnes, c'est rare, mais enfin ça arrive, ils prennent Jésus, ils mettent la main comme ça. Alors, en général, je retire Jésus parce que non, on met pas la main sur Jésus. Hop! Non, on le reçoit. On le reçoit comme un cadeau. C'est lui qui se donne. C'est pas nous qui le prenons. Et vous voyez, le plus terrible, ce serait de dire, moi, j'ai droit à Jésus. Ça, ce serait horrible. Si un jour vous vous dites, moi, j'ai droit à l'Eucharistie, alors là, ça veut dire que vous êtes complètement dans l'erreur. Moi, Michel Petit, évêque de auxiliaire de Paris, je n'ai pas droit à l'Eucharistie. Je n'ai pas droit à l'Eucharistie. Mais je la reçois parce que Dieu me fait ce cadeau immense, inouï. Mais de droit, qu'est-ce que ça veut dire cela? On n'est pas dans l'ordre du droit, j'ai droit à, on est dans l'ordre du don, du cadeau magnifique que Dieu nous fait. Et que s'il ne peut pas le réaliser au travers de son Eucharistie, de son corps et de son sang, parce que objectivement, je suis dans une situation qui ne me permet pas de le recevoir, eh bien, je suis sûr que Jésus me donnera quand même quelque chose, il me donnera un don, il se donnera lui-même, mais pas par la manière des sacrements, c'est-à-dire par la manière dont il a dit, ceci est mon corps, ceci est mon sang. Il l'a dit lui-même, l'Esprit souffle où il veut, vous ne savez ni d'où il va, ni d'où il vient. Si nous avons des sacrements, c'est pas l'Église qui les a inventés. C'est Jésus qui a dit, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Pardonnez-leur leurs péchés, ils leur seront pardonnés. Ceci est mon corps, ceci est mon sang. Faites ceci en mémoire de moi. Donc, voyez, tous les sacrements, c'est Jésus qui les a donnés à l'Église pour donner la grâce à tous ceux qui écouteront la parole des apôtres et de leurs successeurs. Les successions apostoliques, c'est ça qu'on appelle l'Église. Vous savez, c'est l'ensemble des baptisés et de ceux qui succèdent aux apôtres. Voilà, on sait que moi, vous savez, j'ai été ordonné par Monseigneur 23 qui m'a mis les mains sur la tête. Lui-même a eu, etc. Et si on remonte, on retombe sur un des apôtres. C'est vrai pour l'Église d'Occident, c'est-à-dire l'Église latine, l'Église catholique, ce qu'on appelle. Et c'est vrai aussi pour l'Église d'Orient, celle qu'on appelle l'Église orthodoxe. On a la succession apostolique, c'est-à-dire chaque évêque est sûr d'avoir été ordonné par quelqu'un qui remonte jusqu'aux apôtres. Et c'est vrai pour les prêtres aussi, puisqu'ils ont été aussi ordonnés avec l'imposition des mains, comme Pierre le faisait, comme Paul le faisait dans les Actes des apôtres. C'est une merveille. Donc voyez, les sacrements, c'est Dieu, Jésus, qui nous l'a donné. Quand nous le recevons, nous savons que nous recevons la grâce. Mais il a dit aussi que nous pouvions recevoir des grâces autrement. Et plus nous le respectons, et plus c'est extraordinaire. Une autre histoire. Un jour, je vois un couple assez jeune. Il venait à la messe, mais il ne communiait jamais. Mais il venait toujours à l'adoration. Alors j'étais très étonné parce que il venait très longtemps à l'adoration. Alors que les gens qui vont communier, des fois, ils vont jamais à l'adoration. Et eux, devant le Saint-Sacrement, ce jeune couple, il pleurait tout le temps. Je me dis, c'est extraordinaire. Comment se fait-il qu'il pleure devant le Seigneur? Devant le Seigneur exposé devant leurs yeux. Eh bien, c'est parce que, justement, ils étaient dans une situation matrimoniale difficile. Moi, je veux pas vous raconter leur histoire. Mais très, très douloureuse. Et du coup, ils ne pouvaient pas communier. Mais voyez, ils venaient. Et j'ai le sentiment profond, parce que j'ai parlé avec eux après leur situation a pu être débloquée et ils ont pu communier. Mais ce que je veux dire, c'est que je suis sûr qu'ils recevaient des grâces extraordinaires. C'est-à-dire, devant le Seigneur, pleurer devant le Saint-Sacrement, pleurer parce qu'ils ne peuvent pas le recevoir, mais ça veut dire qu'ils reçoivent des grâces extraordinaires, des grâces d'amour, des grâces de bouleversement du cœur. Lequel d'entre nous pleure devant le Saint-Sacrement? Nous ne pleurons pas devant le Saint-Sacrement. Ça veut dire que nous n'avons pas reçu toutes les grâces. Quand vous arrivez à pleurer devant une croix, devant Jésus sur la croix. Ça m'est arrivé quand j'étais jeune. Je me disais, je suis fou, quoi. C'est complètement malade. Arrête. Mais c'était plus fort que moi. Mais je me disais, alors à ce moment-là, j'étais pas du tout prêtre, hein. Mais sans doute le Seigneur préparait mon cœur. Des fois, le Seigneur donne des grâces comme cela. Il donne des grâces et on ne sait pas pourquoi. Alors c'est pas les grâces du sacrement, mais ce sont des grâces, c'est gratuit. Le Seigneur donne des choses comme ça formidables. Et vous voyez, si on aime le Seigneur, si on respecte le Seigneur, si on le respecte dans son corps et dans son sang, eh bien je suis sûr qu'on reçoit des grâces extraordinaires. Je vais vous raconter une autre histoire. Ma secrétaire, ça fait longtemps ma secrétaire, je ne sais pas, je ne devrais peut-être pas vous le dire, mais enfin tout le monde le sait, donc... Elle est divorcée, remariée. Tous les jours, elle va à la messe. Elle ne réclame rien. Elle ne demande rien. Je peux dire qu'elle a vraiment une vie exemplaire de sainteté avec son mari. Ils sont dévoués comme c'est pas possible, mais elle va tous les jours à la messe. Elle ne va pas communier. Mais voyez, je pense que parce qu'elle respecte le Seigneur dans son corps et dans son sang, elle reçoit d'autres grâces. Peut-être bien plus de grâce que ceux qui viennent tous les jours à la messe et qui reçoivent le corps du Christ, comme ils vont acheter leur paquet de cigarettes. Ça, là, c'est, je suis pas sûr que ça donne des grâces. Dieu donne tout, c'est vrai. Mais encore faut-il le recevoir. Vous savez, quand on fait un cadeau, et puis que ce cadeau, on le met dans un tiroir, en l'oubliant, ben, ce cadeau, il sert à rien. Si je reçois le corps du Christ, vraiment, et que, au fond, je pense à plein d'autres choses, mais quelle est la grâce? Bien sûr, le Seigneur est là, il est en moi, mais je l'ai complètement étouffé. Alors que celui qui ne peut pas le recevoir, mais dont le cœur est plein de désir et plein d'amour envers le Seigneur, reçoit des grâces peut-être inouïes que vous ne savez pas. Donc vous voyez, l'Église, ce n'est pas pour vous faire du mal qu'elle dit ceci, que vous pouvez communier, vous pouvez pas communier, ce n'est pas cela. Le Seigneur a attaché, et saint Paul après lui, le lien entre le Christ et l'Église, entre l'homme et la femme. Comme un don extraordinaire de Dieu, un don dans l'amour pour la vie. C'est vrai dans la nature, c'est encore vrai aussi dans la surnature, c'est-à-dire dans les choses de Dieu. Et il se trouve que pour une raison ou pour une autre, on se trouve dans des situations difficiles. Eh bien voilà, respecter le corps et le sang du Seigneur, ce n'est pas être méprisé du tout. C'est peut-être au contraire aimer plus encore. Si je suis capable de surmonter mes frustrations, qui ne peuvent être au fond que de la vanité et de l'orgueil, si je suis capable de pleurer et d'attendre que le Seigneur me donne des grâces, peut-être autrement, eh bien il me les donnera. Voilà pourquoi plusieurs d'entre vous qui ne sont pas baptisés, par exemple, s'avancent. et reçoivent la bénédiction. C'est étonnant, je dis la messe à Notre-Dame assez souvent. À Notre-Dame, vous savez, il y a 3000 personnes et on ne sait pas qui c'est. Il n'y a que dans l'église qu'on reçoit des gens sans leur demander leur papier. On ne sait pas qui c'est. On ne sait pas s'ils sont baptisés. Des fois, il y a des cartes de japonais, ils arrivent comme ça, ils suivent la file. Alors moi, je suis là, j'ai dit... Alors je vois bien, parce que des fois, il ne sait pas quoi faire quand il est devant moi. Alors je dis, tiens, c'est la première fois qu'il doit venir. Alors je lui demande s'il est baptisé en français, en anglais, en japonais, je ne sais pas. Mais... Et je vois bien, alors je lui dis, je lui donne quelque chose quand même de la part du Seigneur. Je lui donne une bénédiction. Et il s'en va content. Si j'y avais donné le corps du Christ, il n'aurait même pas su ce que c'était. Non, je lui donne une bénédiction. On ne peut pas s'avancer vers l'autel du Seigneur sans rien recevoir. Ce n'est pas vrai. Et il y a des moments où, quand on a fait sa première communion, qu'on est baptisé, qu'on s'est préparé, qu'on s'est confessé, qu'on a fait tout ce qu'on pouvait faire pour recevoir aussi dignement que possible le Seigneur. Un peu comme quand vous recevez des amis chez vous. Ben, vous faites le ménage, vous mettez une belle nappe, etc. Eh bien voilà, c'est pareil. Vous allez recevoir le Seigneur en vous. Alors, eh bien voilà, c'est pour ça. On va se confesser pour que ce soit beau, que ce soit propre à l'intérieur. Tu peux venir, Seigneur. Oh, c'est pas encore nickel, hein, c'est sûr. Ça sera jamais vraiment nickel, j'en ai peur. Mais voilà, j'ai fait tout ce que je pouvais faire pour te recevoir dans un endroit magnifique, aussi magnifique que possible, pour que tu puisses te sentir chez toi, puisque la grâce est déjà là. La grâce de ton pardon est là. Voilà. Et si je ne peux pas le faire, si je ne peux pas le recevoir, je sais que de toute façon, si je viens, si je m'avance, je recevrai quelque chose. Je recevrai une bénédiction, je recevrai les grâces de Dieu, comme il voudra, parce que je lui fais confiance. C'est à Dieu que je fais confiance. Pourquoi je viens à l'église? C'est parce que c'est à Dieu que je fais confiance. Voilà. Voilà un peu ce que saint Paul nous dit. Voilà, scrutez-vous, regardez-vous quand vous vous avancez pour prendre le corps et le sang du Seigneur. Dans quelle disposition êtes-vous? Et même si vous êtes nickel, impeccable, superbe, est-ce que vous vous rendez compte de ce que vous allez recevoir? Est-ce que vous vous rendez compte que le Fils de Dieu va venir en vous? Est-ce que vous vous rendez compte que l'amour va vous inonder? Non, j'en suis pas sûr. Peut-être qu'aucun d'entre nous ne peut se rendre compte de ce qui se passe. Si nous nous rendions compte, peut-être le curé d'Ars disait, nous serons pétrifiés, nous serions morts sur place. Un jour, j'étais à ce moment-là séminariste. J'étais sur la fin et puis il y avait un prêtre. Et un jour, il confessait et puis il a eu un problème cardiaque. Donc, comme j'étais médecin, j'ai dit, écoutez, mon père, il faut absolument demain que vous voyez le cardiologue parce que c'est grave. Le lendemain, bien sûr, c'est un prêtre, il a la tête dure, vous savez, donc il n'est pas allé voir le cardiologue. 8 jours après, je suis arrivé, toujours, c'était le samedi, il était mort dans la sacristie. Vous savez comment il est mort? Il était en train de célébrer la messe pour des fiancés, des pauvres fiancés, il ne devait pas rigoler. Hein. Il a pris le corps de Jésus. Il a dit, ceci est mon corps, et il s'est effondré mort. Est-ce qu'il y a une plus belle mort pour un prêtre, mon père? Non, c'est pas possible. Vous voyez, il était in persona Christi, le Christ s'est emparé de lui, et il l'a emmené directement avec lui, c'est extraordinaire. C'était un très très saint prêtre qui s'occupait des pauvres, un homme magnifique. Discret, dont personne ne parlait jamais, mais un homme magnifique. Voilà, le Seigneur lui a fait cela. Alors, moi, je me suis dit, évidemment, avec mon cœur de médecin, oh, si j'étais arrivé plus tôt, patati patala, mais enfin bon, c'est le Seigneur qui décide du jour et de l'heure. Mais voyez, l'Eucharistie, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Si on savait ce que c'était, comme dit le curé d'Ars, on mourrait sur place.